Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Mohamed Lamine Gassama, adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris, en charge des questions de propreté, de lutte contre les incivilités et des relations internationales. Vous êtes membre de La République En Marche. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Alors le président Macron est ce soir à Évry-Courcouronnes pour un débat qui concernera notamment les thématiques des banlieues et des quartiers populaires. Parlons d'abord du débat. Est-ce que ces réunions où tous les sujets sont abordés vous semblent utiles et de nature à résoudre la crise des gilets jaunes ?
Je pense que dans cette période où effectivement une crise sociale et une crise aussi peut-être démocratique a vu le jour, pouvoir se parler, pouvoir échanger, pouvoir discuter de façon apaisée, parce que je pense que ça c'est important aussi, sur pas mal de sujets, hein, qui ont trait à effectivement qu'est-ce qu'on veut économiquement, qu'est-ce qu'on veut socialement, qu'est-ce qu'on veut démocratiquement. Je pense que c'est important. C'est important que les Français puissent se parler, puissent pouvoir sortir des idées peut-être neuves, pourquoi pas. Et moi, je suis un naturel optimiste et je me dis que peut-être que de ce débat sortira de belles choses, contrairement à ce que les adversaires de Emmanuel Macron peuvent dire. Mais je pense qu'on peut sortir vraiment par le haut de ce débat-là.
À Paris, où vous êtes élu, des débats sont organisés ?
Absolument, absolument. Il y a beaucoup de débats qui sont organisés par soit des associations, soit des collectifs, soit par les partis politiques. Aussi la mairie de Paris hein, qui aussi organise des débats. D'ailleurs, dans le 20e, nous, on aura un débat le 16 février 2019. Pour justement s'inscrire dans ce débat national et apporter des solutions, en tout cas contribuer positivement.
Qu'est-ce que vous apprenez lors des échanges que vous avez avec les Français depuis cette crise des gilets jaunes ?
On voit bien que moi, et je suis pas surpris, les Français ont une appétence pour justement co-construire, participer. Et c'est pas anodin que finalement on soit à l'échelon communal pour pouvoir justement mettre en place ces débats. C'est parce que il y a une expertise de la démocratie participative. Nous, on l'expérimente depuis maintenant 95 dans le 20e. J'étais pas encore élu en 95, mais je m'inscris dans cette histoire-là. Et effectivement, oui, on a ce lien avec les habitants. On a cette volonté toujours de faire participer et de co-construire toutes les politiques publiques que l'on imagine et surtout de les confronter à la population.
Donc le président Macron a eu raison, Mohamed Lamine Gassama, de s'appuyer sur les maires, car ce sont finalement les élus qui sont les plus appréciés par les Français, ou en tout cas les moins détestés.
Alors c'est vrai que le rapport, je crois que c'est de... je ne me souviens plus de l'auteur du rapport, mais il y a un rapport qui disait qu'effectivement le maire était et son équipe municipale était l'élu le plus apprécié par les habitants, par les Français. Et effectivement, moi je le prouve tous les jours, on est en contact direct avec les habitants. Ils peuvent soit nous appeler, soit nous envoyer des mails, on répond, on a des courriers, on répond. Et donc cette proximité là fait que oui, peut-être que les habitants ont confiance et se disent que peut-être avec le maire et son équipe municipale, on peut être entendu mieux que peut-être avec d'autres élus beaucoup plus éloignés.
Mohamed Lamine Gassama, la question du pouvoir d'achat est centrale dans cette crise. Il y a des mesures qui ont été annoncées déjà par le président Macron, mais de très nombreuses personnes n'arrivent toujours pas à faire face, y compris quand elles ont un emploi. UFC Que Choisir propose par exemple de réduire les frais bancaires pour donner un coup de pouce aux consommateurs. C'est ce genre de mesures concrètes qu'il faudrait expérimenter ?
C'est clairement à ça que sert ce débat-là. C'est-à-dire que l'UFC Que Choisir est une association de consommateurs qui s'inscrit pleinement dans ce débat-là. Et pourquoi pas, effectivement, explorer ce genre d'idées pour baisser, effectivement, ce qu'on appelle les coûts contraints Le loyer, les frais bancaires, l'assurance, voilà, la maladie, tout ça. Enfin, en tout cas, essayer de trouver des pistes, ne pas être borné sur ce qu'on voit et l'existant, mais aller explorer des sentiers qui sont justement non battus.
On pourrait envisager, par exemple, de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité ?
C'est comme tout. C'est comme tout. Quand on supprime quelque chose, c'est qu'à un moment donné, on ne pourra pas financer quelque chose d'autre. Donc, c'est... Et c'est ça qui est important et intéressant dans ce débat-là, c'est que chaque dépense de l'État est le corollaire d'une recette. Donc à un moment donné, il faut bien se dire que quand on supprime une taxe, quand on supprime quelque chose, c'est que à un moment donné, il faudra trouver d'autres recettes pour pouvoir financer l'hôpital, les écoles, l'armée et tout le service public auxquels les Français sont vraiment attachés.
Alors vous parlez des services publics, Mohamed Lamine Gassama, et en même temps, certains Français préconisent de réduire certaines dépenses publiques. Il y aurait trop d'échelons administratifs, régions, départements, agglomérations. Est-ce qu'il faut que l'État soit plus économe ?
Moi, je pense qu'effectivement, il y a des marges de manœuvre pour que l'État puisse réduire certaines dépenses. On est à l'ère du numérique. Moi, je vois par exemple vraiment cet exemple très très simple. Maintenant, on peut déclarer notre impôt par Internet via le portail du ministère des Finances et des Comptes Publics. Ben, effectivement, grâce au numérique, on peut réduire des coûts. Donc, il faut explorer toutes ces pistes parce que c'est oui, on est presque à 100% de la dette de la richesse créée par la France.
Est-ce qu'il faudrait toucher à certaines niches fiscales ? Est-ce qu'il faudrait revoir la fiscalité, y compris en réinstaurant l'impôt sur la fortune ? Alors ça, c'est un tabou pour Emmanuel Macron, mais peut-être que vous êtes plus libre que lui pour dire ce que vous pensez.
Ce n'est pas une question de tabou. La question, moi, je suis vraiment...
Vous ne payez pas l'impôt sur la fortune ?
Non, je ne le paye pas. Et peut-être que j'aimerais bien le payer, j'en sais rien. Mais on est dans... C'est symptomatique du débat finalement politique français. C'est pas le débat avec les Français, mais des politiques. On est dans une totale vacuité. Moi, je suis atterré par le fait que les politiques ne s'accrochent qu'à l'ISF. D'ailleurs, l'ISF, enfin, je veux le rappeler, a été transformé en IFI, donc l'impôt forfaitaire sur l'immobilier. Donc, il n'a pas été supprimé, il a été réaménagé avec cette idée que, à un moment donné, les gens qui veulent investir dans l'appareil productif, qui veulent, par exemple, créer des emplois et tout ça, puissent le faire sans être effectivement assujettis à un impôt. Donc, est-ce que le débat français politique doit simplement s'inscrire dans ce côté manichéen, il faut rétablir l'ISF ou, en tout cas, le rétablir d'une certaine manière pour être dans le symbole? Non, là, on doit être pragmatique. C'est un impôt qui n'a pas forcément créé des emplois dans le passé. Pourquoi en reviendra-t-on sur cette réforme ? Avançons. Et après, on verra, effectivement, on va évaluer cette réforme, si elle a été efficace ou pas.
Mohamed Lamine Gassama, les revendications sociales sont multiples et parfois contradictoires. Est-ce qu'il serait logique qu'après le 15 mars, qui est la date où les débats seront finis, est-ce qu'il serait logique que les corps intermédiaires se réunissent, syndicats, patronat, pour une grande conférence sociale qui permettrait d'aboutir à des avancées concrètes, un nouveau Grenelle social?
Laurent Berger, donc le secrétaire fédéral de la CFDT, a fait beaucoup de propositions. Mais je veux dire juste une chose. Le dialogue avec les corps intermédiaires n'a jamais été rompu, contrairement à ce qu'on laisse passer, on laisse faire croire. C'est juste qu'à un moment donné, en politique, on décide. Emmanuel Macron a été élu sur un programme. Donc, il applique son programme. Ensuite, effectivement, il y a un dialogue. Et là, les corps intermédiaires sont en train de discuter, de négocier sur la réforme de l'assurance chômage. Donc, le lien n'est pas rompu, contrairement à ce que, effectivement, certains veulent laisser croire. Donc, le travail avec les corps intermédiaires se fait. Et se fera toujours parce que c'est aussi la loi. Hein. Il faut discuter avec les corps intermédiaires.
Mais la question qui est importante, ouais, c'est qui va trancher au final? Une fois que ce débat sera terminé. C'est le président Macron qui va décider quels sont les sujets qui seront sur la table. Et puis ensuite, c'est lui qui va dire ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça que ça va se passer.
Là, il reçoit les dirigeants des grands partis politiques, aussi les présidents des groupes parlementaires. Je pense qu'aussi, c'est pour définir un peu comment sera tranché justement les grandes lignes de ce débat. Mais d'abord, laissons ce débat se faire, laissons les remontées pouvoir se faire. Et ensuite, effectivement, je pense qu'il faudra apporter une réponse politique à tout cela.
Qu'est-ce que vous répondez aux dirigeants politiques qui, finalement, considèrent que ce débat est un exercice de communication dans la mesure où on sait ce qui ne va pas? Le président Macron ne sera pas surpris par ce qu'il lira dans les synthèses qu'il trouvera sur son bureau.
Les mêmes qui disaient qu'il faut donner plus de temps de dialogue aux Français, plus de temps de débat, maintenant, effectivement, reviennent sur leurs paroles. Ça ne m'étonne pas parce que, d'une certaine manière, ils ont vu un peu le succès de ce grand débat. Ils ont vu que les Français s'emparaient de cette politique.
Vous en êtes certain?
Je le vois parce que, par exemple, je prends un petit exemple. Au début, quand ça a été lancé, il y a une association qui voulait organiser ce débat et 300 personnes se sont inscrites. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a un engouement. Parce que les Français veulent parler, veulent dire les choses, veulent pas faire passer des messages. Et donc là, ils voient bien que peut-être qu'effectivement, d'une manière peut-être... dans leur pensée cynique, ils sont en train de se dire que le président Macron va peut-être sortir par le haut de cette crise-là. Et donc, comme d'habitude, ils vont jouer toujours à rebours. Et ça, c'est pas acceptable dans une démocratie. À un moment donné, quand il y a un temps d'échange, quand il y a un temps démocratique qui est donné et qui est posé, il faut s'en emparer, même les partis politiques.
Mohamed Lamine Gassama, pourquoi le président Emmanuel Macron a-t-il ajouté la question de l'immigration et de la laïcité à ce débat national? Est-ce que ça vous choque personnellement?
Alors, les deux ne sont pas liés, enfin, les deux ne sont pas mêlés, mais pourquoi pas ne pas discuter de ces questions-là? Est-ce que l'immigration était une question taboue? Non, c'est un fait sociétal, c'est un fait social, et aussi un fait économique. Donc, il faut pouvoir en discuter. Et pourquoi pas, il y a des choses qui sortiront de ce débat-là, en disant ben, comment avoir une coopération meilleure avec les pays d'où viennent ces migrants. Mais à un moment donné, si on part du postulat que, effectivement, l'immigration, c'est juste une question de régularisation ou d'expulsion, c'est sûr que le débat va s'envenimer. Mais si on pense coopération entre les différents blocs continentaux, là, on est sur d'autres paradigmes.
La question de la laïcité aussi, c'est important d'en parler.
La laïcité est une des valeurs de la France et effectivement, je pense qu'il y a dans des territoires où elle est remise en cause. Donc il faut pouvoir aussi en discuter et surtout l'expliquer. Je pense qu'il y a des gens pour qui la laïcité, c'est punitif. Non, la laïcité, ça permet à plusieurs personnes de pouvoir vivre en France et en pleine quiétude et surtout en liberté de conscience.
Mohamed Lamine Gassama, on n'a pas vu de ronds-points bloqués dans les villes de banlieue. Comment expliquez-vous le silence relatif des habitants des quartiers populaires depuis le début de la crise des Gilets jaunes? Je rappelle que le président Macron se trouve ce soir à Évry-Courcouronnes.
Partons de la genèse de cette crise des Gilets jaunes. C'est une crise avant tout de mobilité. C'est parti de la taxe carburant qui allait être appliquée sur donc l'essence et le diesel. Dans les banlieues, c'est vrai que c'est finalement quelque chose qui est sous-jacent et qui est d'une certaine manière sociologiquement ancré dans ces territoires. Il y a effectivement moins de voitures. Les gens peut-être ont moins la possibilité de s'acheter des voitures tout le temps. Et il y a aussi beaucoup de transport à un moment donné. Donc c'est vrai que cette question de la mobilité est moins perçue dans les villes de banlieue et aussi à Paris. Après, ça n'écarte pas le fait qu'il y a quand même aussi des problèmes sociaux dans ces quartiers et que je pense que à un moment donné, ce débat national s'adresse à tous les Français, quels qu'ils soient, à tous les citoyens, quels qu'ils soient. Donc c'est pour ça que je pense que le président se rend à Évry-Courcouronnes pour en discuter.
Avec des problématiques qui sont d'ailleurs communes aux zones rurales, l'absence de médecins dans les quartiers populaires. Ouais, il est plus facile de se faire soigner à Paris qu'à Évry-Courcouronnes, justement.
Alors, je vais enlever un mythe ici, c'est que même à Paris, il y a quelquefois des déserts médicaux. Dans le 20e, on se bat pour avoir aussi des médecins en proximité. C'est un problème, et c'est pour ça que dans la loi de Agnès Buzyn, le gouvernement a augmenté le numerus clausus pour pouvoir avoir des médecins un peu partout. Donc c'est un vrai sujet.
Alors, il y avait eu le plan Borloo qui avait été annoncé il y a quelques mois, et puis ce plan est tombé à l'eau alors qu'il y avait une grande consultation suite à l'appel de Grigny. On a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, que la banlieue a été un peu oubliée par Emmanuel Macron.
Elle n'a pas été oubliée. Rappelez-vous que la première sortie du candidat Macron, c'était en banlieue, justement à Bobigny, dans un établissement de formation professionnelle. Elle n'a pas été oubliée. C'est juste, je pense qu'à un moment donné, ce qu'il a voulu dire, c'est aussi que... on a beaucoup mis d'argent dans les banlieues, on l'a fait de façon efficace, et quelquefois on l'a fait de façon un peu, c'était assez dispendieux. Et donc à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on met en place dans ces quartiers, dans ces territoires-là, apporte réellement le bénéfice escompté? Quelquefois oui, mais quelquefois non. Donc il faut savoir se poser, le plan de Borloo était intéressant. Moi, je l'ai lu, j'ai apprécié certains points. Après, voilà, à un moment donné, je vous dis, les acteurs de terrain ne sont pas là simplement à attendre les choses qu'elles viennent d'en haut. On construit aussi les choses en bas. Il y a eu aussi, de la part du président, de travailler en réseau. Il y a aussi des annonces qui ont été faites sur comment accéder pour les troisièmes au stage. Assez conséquente, 30 000 offres de stages pour les troisièmes.
La création de crèches dans les quartiers populaires.
De crèches.
Les tarifs pour les cantines aussi.
Extrêmement important, les crèches, c'est là que ça se joue. L'égalité des chances. Moi, je pense que l'une des mesures de ce gouvernement qui a été, je pense, le symbole même de la lutte contre les inégalités, c'est le dédoublement des classes en CP-CE1. Plus vous traitez tôt les inégalités, plus vous donnez des chances de réussite aux gamins.
Certains quartiers du 20e arrondissement sont concernés par cette mesure ?
Absolument, tout à fait.
Alors, plusieurs élus de La République En Marche ont indiqué qu'ils ne voteraient pas en l'état la loi anti-casseurs, car certaines dispositions contreviennent aux grands principes de notre République, comme le droit de manifester. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez en faveur de ce texte ?
Alors, je ne suis pas député. Par contre, ce que je vais dire... C'est que, parce que je suis un élu parisien et j'ai vu ce que les casseurs ont créé comme désordre et désagrément pour les commerçants, pour les habitants à Paris, lors des manifestations justement des Gilets jaunes. Quand on vient juste pour casser, l'intention de casser, pas de manifester, manifester c'est un droit effectivement, mais quand on vient juste pour casser le visage couvert, avec du matériel fait pour cela, pour aller casser des vitrines. Est-ce que réellement, on est là pour dire quelque chose, faire passer un message ? Je ne pense pas. Et c'est assez symptomatique quand j'ai entendu dans les manifestations en mois de décembre, un des casseurs dire à un commerçant qui lui disait « Non, viens pas casser ma vitrine, tu seras remboursé par les assurances ». Sait-il que les assurances, c'est pas comme ça qu'on se fait rembourser en claquant des doigts. Il y a des procédures administratives à instruire. Donc, à un moment donné, il faut une réponse, je pense, ferme à ces questions-là. Le droit de manifestation doit être préservé. Et je pense que c'est aussi le but de cette loi. Mais à un moment donné, il faut aussi répondre aux casseurs qui, disons-le clairement, sont là pour détruire la République. Ils veulent casser les fondements de notre République. Et donc, à un moment donné, la République doit répondre.
L'invité de Pluriel est Mohamed Lamine Gassama, adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris. Vous êtes en charge des questions de propreté, de lutte contre les incivilités. Vous êtes en charge également des relations internationales et membre de La République En Marche. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Lamine Gassama. Vous êtes adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris. Vous êtes en charge des questions de propreté et de lutte contre les incivilités, mais également des relations internationales. Vous êtes par ailleurs membre de La République En Marche. Alors, on va parler tout à l'heure de l'actualité parisienne. Tout de même, parlons de l'Union européenne. Le 26 mai auront lieu les élections européennes. Les sondages prévoient une entrée en force de l'extrême droite dans plusieurs pays européens. Est-ce qu'il y a un risque de voir un Parlement européen où la première force politique serait l'extrême droite ?
En tout cas, il ne faut pas l'éluder. Et donc, il faut absolument que les forces pro-européennes soient au rendez-vous de l'histoire. Car effectivement, le 26 mai va se jouer, je pense... une part importante dans notre histoire. Soit l'Union européenne a la possibilité de disparaître, en tout cas dans l'état où on le connaît, ou bien on prend ce moment pour en faire quelque chose d'encore plus positif et de renforcer sa construction. Si les amis de Marine Le Pen, Salvini et ainsi de suite accèdent, pas au pouvoir parce que c'est pas, la question n'est pas là, mais ont un nombre certain de députés au Parlement européen, c'est sûr que la donne sera différente. Moi, je vais mettre juste en garde mes compatriotes, mes concitoyens sur cette question européenne, c'est que on voit les difficultés que Theresa May a à faire adopter l'accord sur le Brexit. Le Brexit a été voté sur un mensonge au Royaume-Uni. On le voit bien. Et là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà ce qu'est les populistes. Ce sont des gens qui n'ont pas de... Voilà, ils essayent de faire passer leurs idées par le mensonge, par l'incrédulité parfois des quelques habitants. Hein. Et donc, si on arrive au soir du 26 avec... une montée, une poussée des populistes, la donne ne sera pas la même. Il faut faire vraiment attention. Où est Nigel Farage, celui qui était le pourfendeur de l'Union européenne au Royaume-Uni, il n'est plus là.
Comment votre parti, La République En Marche, qui se présente comme un parti progressiste, mais qui est accusé d'être un parti libéral par ses adversaires, compte lutter contre l'extrême droite ?
Mais l'extrême droite, il faut lutter par la vérité, par l'exemplarité, par l'action que l'on mène auprès des Français. Il est beaucoup plus difficile de mener ce que l'on fait avec le gouvernement et avec la République En Marche que, bien sûr, de vociférer matin, midi et soir sur les chaînes d'info, dans les radios, en disant que tout va mal et que si ça va mal, c'est la faute des autres et que nous, si on arrive au pouvoir, ça ira mieux. On le voit très bien, l'alliance Salvini et Di Maio, c'est compliqué. Ils ont du mal à se mettre toujours d'accord. On voit que la liaison Turin et Lyon a du mal à voir le jour parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas une question économique ou de rationalité, ils ne sont pas d'accord parce que l'électorat de Di Maio ne veut pas et Salvini, il dit, c'est la Ligue du Nord, donc il faut que j'aie ce train pour chez moi. Comment on est dans la rationalité avec ces deux-là ?
Quand vous voyez Salvini critiquer Emmanuel Macron de manière très forte, c'est assez inédit dans l'histoire des relations entre pays européens.
C'est inouï de voir un dirigeant européen critiquer un autre dirigeant européen. Ça s'est jamais vu. Et c'est pour ça que je vous dis que quand on analyse bien les populistes, ils sont sans vergogne. Ils sont sans foi ni loi. Ils sont là pour arriver au pouvoir. Mais après, c'est complètement, le désordre. Il faut dire les choses, c'est le désordre.
Vous êtes très inquiet ?
Je veux pas être inquiet parce que je vais mener campagne pour que justement mes idées passent et que effectivement les forces de progrès, donc la République En Marche en tête, puissent arriver victorieuses le soir du 26 mai. Mais effectivement, il faut pas être angélique.
Que pensez-vous des critiques adressées à l'Union européenne? Perte de souveraineté, Europe ultralibérale, Europe qui ne protège pas?
Il ne faut pas être béat devant l'Europe. Bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Mais quand on arrive à faire voter la directive qui remet en cause les travailleurs détachés, c'est une victoire. Et ça, justement, les Salvini, les Le Pen et consorts ne le disent pas, que c'est pour les travailleurs français, c'est une victoire. Donc c'est ça aussi l'Europe, c'est de remettre de l'égalité, c'est de remettre du pragmatisme, mais il faut bien sûr aller plus loin dans certaines intégrations.
La France a annoncé qu'elle allait taxer les GAFA sans attendre une décision européenne. Mmh. Est-ce que finalement, ça n'est pas la méthode qui devrait présider aux destinées de l'Union européenne dans les années qui viennent? Une Europe à la carte, deux ou trois pays qui prennent une décision et tentent d'entraîner les autres par la suite.
J'ai longtemps milité pour effectivement une Europe à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien qu'à 28, c'est compliqué d'aller de l'avant et de mettre tout le monde d'accord sur une politique bien déterminée. Donc à un moment donné, effectivement, il faut pouvoir décider à 2, 3, 4, 5 dans l'Union européenne sans remettre en cause l'idée de l'Union européenne, mais que des pays puissent avancer sur telle ou telle politique, oui, moi je pense qu'il faudrait aller vers cela. Par exemple, moi je suis atterré que justement l'alliance entre Siemens et Alstom ne puisse pas se faire, ou en tout cas qu'il y a des difficultés à ce que ça se fasse. Donc à un moment donné, ce genre de stratégie doit être réfléchi, je pense, de façon peut-être bilatérale, trilatérale, mais en tout cas, pas forcément au niveau de l'Union européenne totalement.
Mohamed Lamine Gassama, parlons à présent des municipales à Paris. Mmh. À droite, Rachida Dati a fait part de son intérêt pour la candidature des Républicains en 2020. Comment accueillez-vous cette candidature, l'annonce de cette hypothétique candidature?
C'est une candidature.
Rien de plus.
Rien de plus, ça sera. Ils vont désigner leur candidat, et bon, bah, si elle veut être candidat, elle a le droit.
La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous nous avez parlé de la méthode de La République En Marche à Paris. Mmh. D'abord l'écoute, oui. Puis le projet.
Absolument.
Puis le ou la candidate.
Absolument.
On en est où en ce moment procédure?
On a fini la phase d'écoute, donc avec Paris et moi. Donc, a été une belle phase d'écoute. On est allé à la rencontre des Parisiens. Et voire même au-delà de Paris, parce qu'on est vraiment dans une démarche métropolitaine aussi, et pour dire que Paris n'est pas que simplement intramuros. Et donc, le 28 janvier dernier, nous avons fait la restitution de ce que les Parisiens nous ont dit.
En quelques mots, quelles sont les grandes lignes de ce que les Parisiens
nous ont dit? Les Parisiens nous ont parlé de la propreté, qui est clairement mal vécue par les Parisiens. Ils nous ont parlé aussi de la sécurité, qui était un ressenti fort auprès des Parisiens, et aussi une notion de solidarité et cette notion de la solitude de certaines personnes, donc qu'il faut effectivement traiter au niveau d'une capitale comme Paris.
Anne Hidalgo a annoncé la création prochaine d'une police municipale à Paris, ce que réclamait de longue date la droite, un sujet qui fait l'objet de débats actuellement au Conseil de Paris, même s'il n'y a pas de vote. Une police municipale à Paris, c'est une idée que vous approuvez?
C'est une idée que je défendais déjà en 2014, mais qui a été écartée par la majorité au Conseil de Paris.
À l'époque, vous étiez socialiste.
J'étais socialiste, et qui a été écarté effectivement par la majorité socialiste, communiste, ELV, et maintenant amoniste. La maire de Paris revient maintenant sur cette idée-là. Je pense qu'elle a bien senti qu'il y avait un sujet auprès des Parisiens, mais c'est une occasion manquée, disons-le.
Pourquoi?
Parce que elle ne fait que mettre le mot police à ce qui existe actuellement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la direction de la prévention sécurité de Paris. Donc il y a plusieurs hommes et femmes qui sont donc dans cette direction-là, donc de la sécurité de Paris, et en fait le mot police sera collé sur leurs uniformes, mais on ne va pas au fond des choses. Nous, La République En Marche, ce qu'on propose, c'est une police municipale qui soit armée déjà, parce que je pense que c'est important qu'il y ait une dissuasion auprès des forces de l'ordre, qu'elles soient municipales ou nationales, et que les arrondissements puissent avoir leur mot à dire sur cette question de la police municipale. Parce que l'arrondissement, pour nous, est l'échelon le plus fin pour justement mieux appréhender toutes les incivilités qui peuvent apparaître dans un territoire. Par exemple, je suis en charge des incivilités dans le 20e, et je pense que si j'avais justement cette capacité et cette possibilité d'avoir une police municipale, j'irais sous mes ordres, je pense qu'on pourrait faire un travail vraiment de fin et intéressant et pertinent auprès des habitants, et justement, quelquefois, même co-construire avec les habitants cette sécurité-là. C'est la première des libertés, la sécurité. Et donc, je pense que là, c'est un rendez-vous manqué de la part de Anne Hidalgo, et on voit bien que sa majorité au Conseil de Paris lui a fait comprendre que elle n'en voulait pas de cette police municipale. Il y a même les Verts qui ont du mal avec le mot police. Ça dénote bien d'une certaine irresponsabilité vis-à-vis de la sécurité des Parisiens. Donc nous, on a proposé dès le mois d'octobre une police municipale armée au niveau des arrondissements, et je pense que c'est l'échelon qui est le plus pertinent pour traiter cette question-là.
Il reste des quartiers relativement dangereux à Paris, Mohamed Lamine Gassama, je pense en particulier au quartier de la Chapelle, où les habitants se plaignent de l'insécurité liée au trafic de drogue, des femmes se font harceler, insulter. On lit ce type de témoignages sur les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement dans un quartier comme celui de la Chapelle ?
C'est un vrai crève-cœur de voir le 18e dans cet état, et surtout ce quartier-là, parce que je dirais que j'y suis né. Je suis un natif du 18e et j'ai bien sillonné, j'ai beaucoup sillonné le 18e et notamment la porte de la Chapelle, parce que c'était le chemin pour aller au lycée et à l'école de commerce. Et je pense effectivement que la police nationale pour le coup fasse vraiment le maximum pour que ces trafics de drogue et d'êtres humains cessent. Vient se coller à ça effectivement à la question aussi des migrants, parce que tout ça est un peu mélangé, ce qui fait que c'est un cocktail détonnant. Ensuite, il y a un gros travail à faire sur l'urbanisme de ce quartier-là, qui est un peu un quartier, quand vous y allez, enfin je sais pas si vous connaissez, mais c'est un vaste champ. Il y a certes beaucoup, et qui est très anxiogène en fait. Et le tramway est arrivé, le tramway a apporté un certain apaisement, mais pas assez. Donc il y a un plan urbain qui est en train d'être construit là-bas. Donc ça passera aussi par ça. Ça passera par l'apaisement de l'espace public, plus le travail de la police nationale et aussi le travail de la police municipale pilotée par, pourquoi pas, le futur maire du 18e.
Quand on parle de mesures qui concernent l'urbanisme, c'est-à-dire qu'il faudrait détruire certains immeubles, reconfigurer des rues.
En fait, quand vous êtes dans un plan de renouvellement urbain, il y a effectivement des choses que l'on casse, que l'on refait. Il y a des choses qu'on réhabilite, effectivement. Et ça passe aussi par aussi des nouvelles mobilités. Piétons, vélos et voitures, bien sûr, et bien sûr, transport en commun. Et aussi, comment vous harmonisez la circulation entre toutes ces mobilités.
Il y a un quartier, par exemple, dans le 20e arrondissement, rue de Ménilmontant, qui a été réaménagé il y a quelques années. C'était un quartier dit sensible. Est-ce que ce réaménagement a porté ses fruits en termes de sécurité ?
Alors justement, vous prenez un très très bon exemple, le 140 de Ménilmontant, la rue Hélène Jakubowicz, en fait, il n'y a pas eu de réaménagement urbain en état, mais on y a remis de l'humain. On y a remis effectivement aussi, on a fait un gros travail avec le commissariat du 20e pour effectivement endiguer le deal de drogue qui était très très important dans ce quartier-là. Mais ça s'est pas fait vraiment en deux jours, hein. Ça s'est fait presque une mandature pour justement amoindrir l'impact négatif des dealers dans ce quartier-là. Ça s'est joué aussi par la reconquête de l'espace public.
De quelle manière ?
Déjà, la rue, par exemple, Hélène Jakubowicz était une rue très peu éclairée. Donc vous remettez de la lumière, ça permet déjà de rendre visible l'espace public. Ensuite, on a aussi remis de l'espace vert, hein, pour que les gens puissent en profiter le mieux possible. Ensuite, on y a remis aussi de l'attractivité festive. Les associations ont pu s'approprier cet espace-là. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, des étudiants aussi qui sont venus au contact des habitants, leur proposer leur aide pour le devoir et tout ça. Donc c'est tout un travail de mise en réseau, je le disais tout à l'heure, pour que cet espace-là ne soit pas laissé à l'abandon et surtout aux mains des dealers.
Donc ça n'est pas que de la police qui est nécessaire.
C'est pas que de la police.
Il faut aussi un travail
minutieux.
C'est de la dentelle.
C'est beaucoup aussi de dialogue avec les associations qui sont sur le terrain. Il y a deux fois des associations qui travaillent très bien. Il y en a qui sont un peu moins efficaces. Mais c'est surtout de l'encouragement à ce que, surtout à dire aux habitants qu'on vous laisse pas tomber. Souvent, dans ces quartiers, on dit « ouais, on fait rien pour nous ». Mais au contraire, justement, quand on les met sur la table, autour de la table, avec tous les acteurs, et qu'on a un objectif commun, on le partage et on va de l'avant.
Certains quartiers de Paris, aujourd'hui, ont des problèmes comparables à ceux qu'on trouve dans certaines villes de banlieue.
Il est évident qu'il y a des quartiers qu'on appelle politiques de la ville, où les phénomènes d'insécurité, d'incivilité sont ressentis, c'est clair. C'est souvent dans le 18e, on en a parlé tout à l'heure, c'est dans le 20e, c'est dans le 19e, aussi une partie dans le 13e, et quelquefois aussi dans le 14e, dans une partie. Tous ces quartiers-là ont bénéficié de ce qu'on appelle la politique de la ville. Mais maintenant, est-ce que cette politique de la ville a été efficace ? C'est ça la question. Elle a été efficace sur certains points, mais on voit bien que sur d'autres, il y a encore à faire. Et ce que demandent beaucoup des jeunes dans ces quartiers-là, c'est de pouvoir s'émanciper économiquement. Et moi, je pense que dans ces quartiers-là, à un moment donné, il faut aussi entendre que certains veulent être entrepreneurs, veulent créer leur entreprise. Ce n'est pas, être des grands capitalistes, des méchants capitalistes, que de vouloir créer son entreprise pour créer de la richesse. Dans le 93, à côté de Paris, dans le nord-est de Paris, il y a énormément de créations d'entreprises. Alors je dis pas qu'elles réussissent toutes, mais l'idée de se dire je crée mon entreprise, je crée de la valeur, j'y mets vraiment du mien, je pense que c'est des choses à soutenir. Et je ne le vois pas assez dans les quartiers dont on a parlé, populaire de Paris, je le vois pas assez, ce soutien à ces jeunes qui veulent vraiment entreprendre, qui veulent créer de la richesse et finalement qui veulent s'en sortir.
Tout à l'heure, Mohamed Lamine Gassama, vous avez évoqué la nécessité de décentraliser les pouvoirs de police au niveau des arrondissements. Est-ce que cette décentralisation dans Paris doit concerner d'autres secteurs ?
Je pense que la propreté aussi doit être décentralisée au niveau de l'arrondissement. Et quand on regarde les questions de propreté, il y a aussi la question des déchets qui est mêlée. Pour moi, il y a deux métiers. C'est un peu technique, mais c'est important. Il y a la collecte des déchets, donc c'est ce qu'on produit tous les jours et qui est collecté par les agents de la ville de Paris. Et ensuite, il y a le nettoiement de la rue et de l'espace public. Et je pense que il devrait y avoir, en ce moment, c'est quoi ? C'est mélangé. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une dissociation de ces deux métiers, que la collecte soit confiée à la métropole et à la ville de Paris, et que la question du nettoiement soit confiée au niveau de l'arrondissement. Pareil pour la sécurité, vous avez une meilleure finesse d'action. Un élu d'arrondissement connaîtra mieux son quartier que l'élu en charge au niveau la ville de Paris. Donc c'est ça qui est important, c'est comment on rend efficace et comment on arrive à affiner son travail.
Dernière question, quel est le calendrier pour La République En Marche à Paris ? Vous nous avez dit que le temps de l'écoute est terminé, ouais. Le projet, le candidat,
alors,
c'est quand ?
Là, on est, je pense qu'à partir de la fin des européennes, on aura la désignation du candidat. Il y a aussi toute une phase de formation qui a été ouverte à tout citoyen pas simplement que des citoyens en marche ou sympathisants, mais à tous citoyens qui ont envie de déjà de s'informer, de se former à ce qu'est la ville de Paris. Et ensuite, effectivement, détecter, pourquoi pas, des futurs élus. Et moi, je fais partie de ces formateurs-là parce que je trouve qu'il est important de pouvoir transmettre son savoir, ses compétences. Moi, quand j'ai été jeune élu, j'ai pas bénéficié de cette formation-là. Et je vois qu'on avance plus vite quand on est conscient de là où on met les pieds.
Merci Mohamed Lamine Gassama. Je rappelle que vous êtes adjoint à la maire du 20e arrondissement de Paris et vous êtes membre de La République En Marche. Bonsoir.
Merci Loïc.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.